Écoute. Écoute.
Bonjour, mon invité est Julia Tasse, directrice de recherche à l'IRIS, qui avait publié l'an dernier avec Sébastien Abyss ce Géopolitique de la mer aux éditions Erol. On va beaucoup parler des mers, des océans. C'était un peu passé de mode. On avait un peu la question, les questions maritimes étaient un peu, avaient un peu disparu de l'horizon géopolitique. Elles reviennent en force. Mmh. Comment expliquer cela ?
Il y a une première explication qui est que finalement, les questions géopolitiques de manière générale sont revenues en force dans le contexte actuel. Et les puissances, plusieurs puissances se développent, sont en rivalité et cherchent de nouveaux espaces de conquête, de compétition. Et donc la mer, qui a toujours été un espace sur lequel il est difficile d'opérer et sur lequel on va avoir tendance à ne pas aller si on peut éviter d'y aller, pour beaucoup en tout cas, cette mer, elle redevient un espace dans lequel on se projette pour participer à cette rivalité systémique qui se développe entre puissances.
Alors, quelles sont les grandes puissances maritimes mondiales et est-ce qu'il y a des puissances militaires qui seraient différentes des puissances civiles ? Est-ce qu'il y a des puissances maritimes civiles qui n'ont pas de force maritime militaire et inversement ?
Complètement. Il y a différentes natures de puissances maritimes. Il va y avoir des puissances maritimes économiques, donc civiles. La Chine en est un exemple. C'est un pays qui aujourd'hui compte les plus grands ports de commerce internationaux, qui a une flotte de commerce qui est impressionnante, qui a également une flotte de pêche qui est partout autour du monde. Et puis, il y a d'autres formes de puissances maritimes, des puissances navales, par exemple, donc des puissances militaires. Et aujourd'hui, les États-Unis, par exemple, sont la première puissance militaire navale en termes de capacité d'action. Et il y a tout un jeu entre la Chine et les États-Unis, la Chine développement de nombreuses capacités navales aussi. Et puis, il y a d'autres formes de puissances maritimes. Par exemple, on peut considérer que l'Europe ou l'Union européenne est aussi une puissance maritime de par les grands armateurs qui sont européens, mais aussi par sa capacité au sein des négociations internationales à porter la voie de la mer ou à l'étudier à travers sa puissance scientifique, finalement.
L'IFREMER, etc.
Exactement.
Qui ont une vraie reconnaissance internationale.
L'Union européenne, à travers également tous les programmes spatiaux qui permettent l'observation de la mer, a une force de frappe en termes scientifiques qui est assez sans commune mesure au niveau international. Donc il va y avoir, voilà, en fonction des pays, des formes de puissance maritime qui sont très différentes. Et puis il y a un dernier point qui est-ce qu'on se pense en tant que puissance maritime ? Parce que finalement, on parle de l'Union européenne, mais l'Union européenne ne se pense pas en tant que puissance maritime. La France, on pourra en discuter. Mais des pays insulaires comme le Royaume-Uni, qui a très longtemps été la puissance maritime, l'était aussi parce qu'elle a cette vision insulaire d'elle-même et donc l'intégralité de ses capacités de projection, que ce soit économique comme militaire, passe par la mer.
Alors, tu parles des États-Unis comme puissance maritime militaire. Mmh. Et ce n'est pas une puissance commerciale maritime. Pourtant, ils importent beaucoup de choses. Donc, ce qui est importé aux États-Unis passe par des compagnies qui ne sont pas américaines.
C'est une puissance maritime de facto, puisque les États-Unis, souvent, on dit qu'ils se considèrent eux-mêmes comme une île, finalement. Très longtemps, ils ont été en connexion permanente avec l'extérieur. Et donc, ils avaient une vision presque insulaire de leur territoire. Donc, ils ont très tôt développé des grands ports de commerce et des flottes de commerce également. Mais aujourd'hui, les plus grands armateurs ne sont pas américains. Ils sont asiatiques, chinois, japonais, coréens. Ils sont européens. Les deux premiers armateurs internationaux, ce sont un Danois et un Italo-Suisse. Et il y a le français qui n'est pas très loin. Par contre, ils vont avoir toujours des grands ports. C'est-à-dire que parmi les grands ports dont je parlais tout à l'heure, dont la majorité aujourd'hui se situe en Chine dans le top 10, il y a quand même des ports américains. Ils vont avoir aussi des capacités de naviguer, mais pour d'autres formes de navigation que les porte-containers. Mais ça, en termes de force de frappe économique, ils ne sont pas forcément les premiers.
Pourquoi ils ont délaissé cela ?
Je ne sais pas s'ils l'ont délaissé ou si c'est d'autres qui ont investi. Par exemple, donc l'espace asiatique, évidemment, a investi la mer. Mais pour les Européens, par exemple, c'est aussi une intuition de certains grands armateurs européens de créer des connexions entre l'Europe et la Chine à une époque où c'était assez peu le cas. et qui aujourd'hui a provoqué ce côté florissant de ces flottes maritimes.
Et par contre, tu parlais de la Chine comme puissance maritime commerciale, elle muscle également son dispositif militaire. On voit que la Chine, on entend par la fois que la Chine produit chaque année ce muscle de façon très très accentuée.
Ça inquiète énormément d'ailleurs les Américains. Alors, ça dépend des années, ça dépend des estimations. Certains disent que la Chine produit en 3 ans l'intégralité de la flotte française militaire, parfois en 4 ans. Quoi qu'il en soit, ça nous permet d'avoir une estimation de l'échelle, de l'ordre de grandeur de ce que ça représente. Mmh. Donc, je disais tout à l'heure que les États-Unis sont la première puissance navale du monde. Aujourd'hui, ils ont autour de 300 navires à peu près et la Chinoise les ont dépassés. En nombre de navires. Ils ne les ont pas dépassés en ce qu'on appelle tonnage, c'est-à-dire
volume. Là, on parle bien de la puissance militaire. Là.
On parle de la puissance militaire, absolument. Les Américains ont encore des atouts stratégiques comme le nombre de sous-marins nucléaires lanceurs d'engins dont ils disposent, le nombre de porte-avions que la Chine n'a pas encore réussi à dépasser. Mais par contre, la Chine s'équipe massivement en termes navals. C'est ce qu'on appelle très souvent le réarmement naval, c'est-à-dire l'investissement massif de la Chine, mais aussi d'autres acteurs en Asie, de capacités d'interception, de contrôle de certaines zones maritimes.
Donc en fait, la rivalité entre Pékin et Washington passe également par le domaine maritime. Et donc, si je comprends bien ce que tu dis, il y a un rattrapage chinois qui était très en retard et qui rattrape, veut rattraper les États-Unis, à refaire son retard.
Complètement. Il y a un rattrapage chinois. Très souvent, on a exprimé le fait que si les États-Unis se pensaient insulaires et donc avaient toujours eu la mer comme partie finalement inhérente à leur puissance, la Chine se pensait plutôt comme continentale. Et elle a une façade maritime qui est beaucoup moins grande que celle des États-Unis. Et donc, elle avait moins investi ce champ-là. Aujourd'hui, on estime qu'elle projette une partie conséquente de ses revenus dans la montée en puissance, le rattrapage de la puissance navale américaine. Et pourquoi ? Parce que finalement, déjà d'une part, pour sécuriser son transport maritime, parce que très longtemps, la guerre en mer, elle a été faite pour atteindre les approvisionnements. Donc, c'était une manière de sécuriser ses approvisionnements maritimes. Ces approvisionnements pétroliers aussi, qui passent par la mer et qui sont un flux vital pour la Chine. Mmh. Et puis, il y a une autre facette à tout ça, c'est que peu à peu s'est développé ce concept d'Indo-Pacifique dont tu as déjà dû parler de nombreuses fois avec d'autres intervenants. Et finalement, ce concept d'Indo-Pacifique, il a été développé dans le cadre de la montée en puissance de la Chine. Et il porte bien son nom, puisqu'il porte le nom de deux océans, l'océan Indien et l'océan Pacifique, qui constituent maintenant deux matrices stratégiques très centrales, je dirais, et donc d'investir dans les capacités soit de délit d'accès, soit de contrôle, de maîtrise des mers, c'est ce finalement indiquer à la puissance américaine qu'eux aussi pensent la puissance par le biais du maritime.
Avec par ailleurs pour la Chine une montée en puissance de ses revendications territoriales maritimes, qui froisse un peu ses voisins, et bien sûr la question centrale, nodale, du détroit de Taïwan.
Il y a effectivement autour de la Chine des espaces maritimes assez peu profonds et dans lesquels il y a énormément d'activités. Donc c'est le cas du détroit de Taïwan, c'est aussi le cas de la mer de Chine méridionale. Et effectivement, dans les deux cas, ça cristallise les tensions. Alors pour le détroit de Taïwan, on ne sait pas la peine de rentrer dans les détails, mais ça cristallise vraiment les tensions. Pour la mer de Chine méridionale, il y a une vision chinoise donc, qui s'appelle la vision avec 9 traits. Il y a un document historique qui définit l'espace comme étant chinois, mais ça contredit le droit international de la mer. Et aujourd'hui, les Chinois tentent d'imposer leur vision de l'espace maritime comme étant le leur, à travers notamment la présence sur des îles ou des îlots. Et leur présence est continue pour marquer leur territoire. Et ça passe aussi par les flottes de pêche. Donc il y a aussi l'utilisation de proxys civils à visée stratégique.
Mais du coup, certains pays, comme par exemple les Philippines, demandent une réassurance américaine. Et finalement, ces revendications chinoises ont un peu réintroduit, ou du moins confirmé, la nécessité d'une présence américaine pour certains pays asiatiques.
Effectivement, les voisins directs de la Chine autour de cette mer de Chine méridionale n'ont pas la flotte nécessaire pour faire face à la quantité de bateaux chinois dans la zone. Donc, ils ont fait appel à leurs alliés, notamment les Américains. Les Américains n'ont pas signé la Convention internationale du droit de la mer, ce qui est assez ironique, puisqu'ils s'appuient sur les textes et finalement la structuration de l'espace maritime qu'a mis en place cette convention, pour mettre en place des opérations de liberté de navigation, puisque cette mer de Chine méridionale dépend d'un droit international de la mer qui devrait en permettre une liberté de navigation de navires, sinon militaires, du moins de transport. Et finalement, c'est vraiment une, je dirais pas une lutte, mais une utilisation du droit international et du cadre de la liberté de navigation par les deux puissances au sein d'un même espace. Et c'est très intéressant à suivre. Et ça cristallise beaucoup d'enjeux, effectivement.
Qui s'appuient sur le droit sans avoir été eux-mêmes ratifié le traité. Il y a aussi un autre élément maritime dont on a beaucoup parlé, c'est la mer Rouge, qui est un axe central pour le commerce maritime et qui a été mis en danger par des milices, les milices houthis du Yémen. Donc, il ne faut pas être une superpuissance pour mettre en danger les flux commerciaux.
Et ça rebondit sur ce que je disais tout à l'heure, sur la volonté aussi, d'une part, évidemment, de se positionner au sein d'une communauté internationale et d'une communauté militaire de la part de la Chine, mais de protéger les flux commerciaux. La protection des flux commerciaux, ça a été une des missions des marines militaires depuis très longtemps. Et aujourd'hui, on en est revenu à ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une opération européenne qui a été lancée il y a quelques jours. Et donc, elle vient se superposer à deux autres opérations avec plusieurs pays, qui impliquaient plusieurs pays européens dans la zone. Et elle se différencie clairement de l'opération britanno-américaine. Donc l'opération menée par les États-Unis et le Royaume-Uni, qui s'appelle d'ailleurs Gardien de la prospérité, donc elle dit bien son nom, elle a pour objectif de protéger les bateaux, mais aussi de viser des structures outils si nécessaire, tandis que l'opération européenne, elle déclare clairement qu'elle est là pour protéger les bateaux européens et les bateaux qui circulent dans la mer Rouge. Et donc, dans les deux cas, que ce soit par le nom de l'opération américaine ou par les déclarations autour de l'opération européenne, on sent vraiment que l'idée est que cette zone-là est un point stratégique, que les bateaux qui circulent sont des structures stratégiques, des infrastructures stratégiques, il faut les protéger à tout prix. Et c'est intéressant de voir la rapidité aussi avec laquelle l'Europe s'est positionnée dans cette région, parce qu'on parle de quelques mois, quelques semaines en fait, et quand on connaît l'agenda européen, on réalise la rapidité.
D'habitude, c'est plus long pour prendre des décisions.
D'autant plus militaire.
Oui. Alors, et donc on revient un peu à ce que tu disais, finalement, les flottes de guerre sont là plus que pour se faire la guerre, mais pour protéger les approvisionnements et la sécurité du commerce mondial.
Sur la zone de la mer Rouge, oui. J'espère qu'on n'aura pas d'exemple prochainement pour infirmer cette phrase, parce qu'en réalité, les flottes de guerre sont toujours là pour se faire la guerre. Mais aujourd'hui, on a assez peu d'exemples. On a l'exemple de l'Ukraine et de la Russie.
Oui, parce que la mer Noire est l'autre théâtre d'affrontement.
Tout à fait. Et là, on voit que quand on perd un navire, c'est un choc aussi pour le pays qui perd ce navire-là. C'est jamais anodin. Finalement, la spécificité du combat maritime, c'est qu'il peut très bien passer totalement, j'allais dire, à travers les radars, mais ce serait une mauvaise expression, mais en tout cas, il peut être invisibilisé par la société, parce que ça loin des yeux, loin du cœur, donc on n'a pas forcément d'attention envers ce qui se passe en mer. Mais par contre, quand on est touché de manière massive, et donc là, il y a une forme de sursaut et de d'ébahissement parfois de la société civile face à la violence que peut avoir le combat en mer.
Et là, ça a montré la fragilité, parce que la Russie gagne du terrain sur le domaine terrestre, dans le Donbass, mais dans la mer Noire, elle n'a pas réussi à transformer la mer Noire en lac russe comme elle le voulait.
Elle n'a pas du tout réussi à le transformer en lac russe. Et d'ailleurs, on remarquera que la technique que la Russie a eue pour prendre finalement contrôle de l'espace maritime ou d'une partie de l'espace maritime ukrainien, ça a été de prendre contrôle du littoral et de toutes les infrastructures côtières. Donc il y a toujours quand même cette incertitude autour du combat naval qui perdure même aujourd'hui, même avec les technologies qu'on peut avoir et dont on peut équiper les bateaux.
Alors, on parlait de la France rapidement. Est-ce que la France est réellement une grande puissance maritime ?
C'est une très bonne question. La France est une grande puissance maritime dans les faits, mais elle ne l'est absolument pas politiquement. Dans les faits, elle est une grande puissance maritime. Elle a une marine nationale de grande ampleur. On a la dissuasion nucléaire, ce qui est assez rare autour du monde. On a également des armateurs et des acteurs économiques qui sont les premiers internationaux. On a une puissance scientifique. On a une puissance, je dirais, symbolique avec la capacité de la France à se projeter partout autour du monde. Toutes les communautés côtières qui sont françaises, que ce soit en métropole comme en outre-mer. Mais c'est un impensé politique et aujourd'hui, il n'y a eu aucun programme politique qui a, je dirais, visibilisé suffisamment le sujet maritime pour en faire un élan au niveau national. Et on se pense quand même principalement par le terrestre. Et d'ailleurs, juste un point, si j'ai encore quelques secondes, sur l'illustration de cette impensé politique. C'est que pendant très longtemps, les ministères chargés de fractions maritimes étaient des ministères continentaux. La pêche relevait du ministère de l'Agriculture, les transports maritimes relèvent du ministère des Transports, etc., etc. Donc on a jusqu'à... C'est par vague, je dirais, mais jusqu'à la mise en place du ministère de la Mer en juillet 2020, il y avait... absolument pas de pensée politique visible de la cohérence maritime.
C'est la phrase de Richelieu qui est que l'on cite toujours tout comme disant que les larmes des souverains ont le goût salé de la mer qu'on a ignorée, quoi.
Complètement. Et les Anglais ont fait le chemin inverse en parallèle. Et on voit aussi comment se sont construites nos puissances l'une à côté de l'autre.
L'an dernier, un traité extrêmement important sur la biodiversité a été adopté, un peu à la surprise générale, parce que les pays n'arrivent plus à se mettre d'accord sur aucun traité, mais là, exception, il y a eu un traité qui a été signé. Peux-tu décrire un peu quels sont les enjeux de ce traité ?
Alors, c'est effectivement un traité qui déjà s'imbrique au sein de la Convention internationale du droit de la mer. Donc, ce n'est pas un traité qui vient en addition à cette convention, il vient compléter cette convention. Et il porte effectivement, d'une part, sur les eaux internationales, donc les eaux qui ne relèvent de la souveraineté ou de la juridiction d'aucun État. Ça, c'est important. Parce que ces eaux internationales, aujourd'hui, il y a du droit international qui s'applique, mais il est quand même beaucoup plus léger que pour beaucoup d'autres espaces, surtout continentaux. Et donc, il y avait une liberté d'atteinte à la biodiversité, je dirais, même si c'est peut-être pas la bonne manière de le tourner. Et l'idée de ce traité, c'était de réglementer l'usage de la biodiversité qui a lieu dans ces eaux internationales, usage qui n'est pas la pêche, parce que la pêche, elle est réglementée par d'autres textes et d'autres organisations. Et ça, donc réglementer l'usage de la biodiversité, et ça s'inscrit aussi dans un développement économique aujourd'hui. On développe des activités économiques, notamment minières ou en termes biologiques, le fait d'aller chercher des molécules, d'aller chercher des protéines au sein d'organismes marins. Et ce sont ces activités économiques qui ont aussi posé la question de la régulation de l'usage que l'on fait de la biodiversité.
Comment a-t-il été possible d'avoir un accord ? Est-ce que vraiment c'est une exception par rapport au désaccord ? Les grandes puissances qui sont en rivalité farouche sur d'autres points ont quand même réussi à se mettre d'accord là-dessus. Quels sont leurs intérêts ?
Il y avait d'une part le fait que ça reste un sujet qui cristallise moins d'enjeux que des sujets, je dirais, plus stratégiques. Et puis, il y avait un accord sur l'idée de protéger la haute mer. Je pense que c'est aussi lié au fait que ces activités économiques dont je parlais sont naissantes et elles ne sont pas encore totalement développées, ou en tout cas, il n'y a pas suffisamment d'acteurs économiques qui se sont inscrits sur ces thématiques-là pour que ça crée vraiment des fractionnements au niveau international. Et puis, il y a l'action diplomatique de certains États qui a été très forte. Et on cite notamment la France. Alors, c'est toujours difficile à observer quand on est extérieur, quand on n'est pas dans les délégations. Mais la France aurait eu un investissement en termes diplomatiques important dans le fait d'arriver à un accord, d'aboutir à un accord.
Lorsque la Convention de Montego Bay a été signée en 1982, qui régit le droit de la mer, les délimitations, etc., on avait beaucoup espéré que les nodules polymétalliques qui sont au fond des océans puissent servir, être patrimoine commun de l'humanité, puissent servir à permettre de résoudre les questions de développement et les fractures nord-sud, etc. Maintenant, on est un peu revenu et l'idée, c'est plutôt de protéger et de ne pas permettre d'aller exploiter pour préserver l'environnement, d'interdire plutôt l'exploitation de ces richesses minières maritimes.
Il y a deux camps, en fait. Il y a vraiment deux camps et j'en profite parce que cette question des mines, des fonds marins, elle illustre bien aussi la fragmentation de la mer dans l'échiquier international. On parlait d'un traité sur la haute mer. Il faut savoir qu'il y a une autre organisation qui s'occupe du fond de la mer. Donc il y a une organisation qui va s'occuper de la colonne d'eau, ce qu'on appelle la colonne d'eau, donc en fait l'espace liquide. Et puis il y a une organisation qui dépend de l'ONU et de cette convention qui ne concerne que le sol et le sous-sol. C'est l'autorité internationale des fonds marins. Et c'est dans le cadre de cette autorité et des rencontres des États membres de cette autorité qu'est négocié un code minier des fonds marins. Et là, il y a deux positions claires par différents États. Il y a des États qui sont pour l'exploitation, donc le fait d'aller chercher des nodules polymétalliques, et d'autres qui sont pour un moratoire. Alors, ce n'est pas forcément interdire, c'est attendre d'avoir plus d'informations pour un moratoire qui aurait une date de fin. Et puis, il y a la position française qui est tout à fait particulière, qui est l'interdiction, effectivement. Et donc, l'interdiction, elle n'a normalement pas de fin prévue et de réouverture potentielle de l'exploitation.
Mais si un État dit, bah écoutez, moi, dans les zones internationales qui sont libres d'appropriation, je vois qu'il y a des matières qui m'intéressent et qui peuvent contribuer à sortir un peu de la misère, est-ce qu'il pourrait y aller en s'affranchissant des négociations ?
Déjà, ce cadre international, il autorise effectivement des États à sponsoriser des entreprises. Donc il faudra qu'ils s'adressent à cette autorité internationale des fonds marins et qu'ils demandent l'autorisation pour l'entreprise d'aller exploiter. Aujourd'hui, ces entreprises, elles ont déjà le droit d'aller explorer, ce qui est une première étape. Par contre, cet État, il peut autoriser une entreprise à aller exploiter dans sa zone économique exclusive. Et c'est déjà d'ailleurs le cas de plusieurs États insulaires du Pacifique qui ont autorisé des entreprises à essayer de tester la viabilité économique de mines sous-marines au sein de leur zone économique exclusive.
Alors, tu es une spécialiste des questions d'environnement, de protection de l'environnement. L'océan, c'est un enjeu majeur pour la lutte contre le changement climatique ?
C'est un enjeu crucial, central, parce que si on détruit l'équilibre océanique, on détruit une capacité de l'océan à réguler le climat, à la fois en absorbant du dioxyde de carbone par la pompe biologique comme par la pompe chimique, physique, mais on détruit surtout une capacité de l'océan à redistribuer la chaleur. Et aujourd'hui, on parle beaucoup du Gulf Stream. Le Gulf Stream, ce n'est qu'un petit bout d'un courant mondial qui redistribue la chaleur depuis les tropiques jusqu'au pôle, et c'est ça qui crée les conditions dans lesquelles on vit actuellement. Donc on regarde avec attention l'évolution de ce courant global, et on a très peur que les activités humaines, notamment celles qui mènent au changement climatique, affaiblissent ce courant.
Merci Julia de ce tour d'horizon sur les questions à la fois d'environnement, de commerce et de géopolitique. Je renvoie donc à la lecture du livre que tu as coécrit avec Sébastien Abyss, Géopolitique de la mer, aux éditions Erol. Et merci pour ce tour d'horizon.
Merci à toi.